Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 9. Après avoir vu la Frochard et Jacques disparaître dans l'intérieur du cabaret, Pierre s'était peu à peu approché de l'aveugle. Mais déjà Louise savait qu'il était là. Elle avait deviné, au silence qui avait suivi les dernières paroles de Jacques, qu'elle n'avait plus pour le moment à redouter qu'on l'obligeât à chanter. Ce n'était pas ce brave garçon qui aurait voulu troubler l'apaisement d'esprit qui se faisait en elle dès qu'elle ne se sentait plus sous le regard de la Frochard. Elle avait deviné la présence de son ami le rémouleur, et cependant elle n'osait pas lui parler. Elle eût désiré que ce fût lui qui rompît le silence. Or, comme Jacques lui avait fait prendre place sur les premières marches de l'escalier, les autres, plus à l'abri, étant déjà occupés par la nuée de vagabonds et de mendiants qui s'étaient abattus là, l'aveugle recevait sur ses épaules des flocons de neige que le vent faisait tourbillonner. Au loin, dans les rues adjacentes, les piétons couraient, enveloppés dans leurs manteaux. Les toits se garnissaient de dômes blancs, les cheminées prenaient des chapiteaux improvisés, et le ciel devenait de plus en plus sombre. Louise grelottait, et comme si elle eût voulu se rendre compte de la couche de neige qui s'agglomérait peu à peu sur elle, la malheureuse avait, par deux reprises, passé sa main glacée sur ses épaules, et elle murmura en grelottant. « J'ai froid !» Et ses lèvres bleuies frissonnaient, répétant dans un tremblement convulsif. « J'ai bien froid !» Pierre ne put retenir un geste de douloureuse compassion. Il s'était approché, et comme la jeune fille répétait pour la troisième fois « J'ai bien froid !» il se dépouilla de son habit, s'exposant lui-même à la température glacée et recevant sur sa poitrine, à peine couverte d'une mauvaise chemise usée et en lambeaux, d'épais flocons de neige. Puis il s'approcha doucement et laissa tomber son habit sur les épaules de Louise. Celle-ci eut un tressaillement, et de sa voix si douce et qu'elle s'efforçait de rendre plus ferme. « Ah, c'est vous, Pierre » dit-elle. Le rémouleur se mit à trembler, mais ce n'était pas de froid. Il se préoccupait peu de n'avoir qu'une méchante chemise en lambeaux sur les épaules. Il frissonnait au son de la voix si douce de celle qu'il aimait, à laquelle, au prix des plus cruelles tortures, il eût voulu épargner une souffrance ou une larme. « C'est vous, Pierre » avait-elle dit. « Pierre !» Elle ne l'appelait plus monsieur, elle l'appelait Pierre, tout court, comme elle eût appelé un ami, un frère. Transporté de joie, ce malheureux qui en était arrivé, à force de se considérer comme un être inutile dans le monde et sur lequel personne ne devait jamais jeter un regard, si ce n'est un regard de pitié, ce malheureux sentit un rayon de bonheur pénétrer en lui à la voix de cet autre déshérité. « Oui, mademoiselle, je suis là. » dit-il en s'approchant. Instinctivement, Louise avait tendu la main du côté où elle avait deviné la présence de son protecteur. Et doucement, murmurant les mots de peur que quelqu'un d'autre que le rémouleur pût les entendre. « Dès que j'ai senti qu'on avait pitié de moi, votre nom est venu tout de suite sur mes lèvres, » prononça-t-elle. Son visage se tournait, cherchant pour ainsi dire celui de ce bienfaiteur, comme pour le remercier. Il semblait que ses yeux s'enflamment, eussent, malgré leur cécité, trouvé une expression de reconnaissance. Et Pierre n'en détachait pas ses regards. Il fut resté ainsi dans une muette contemplation, ne trouvant pas de mots pour exprimer tout ce qui se passait en lui. Il eut gardé le silence, lui qui se sentait si misérable, qu'il ne savait à quoi attribuer la sympathie que cette jeune fille lui témoignait. Il se disait « C'est sans doute parce qu'elle ne peut pas me voir. » Le silence se serait longtemps prolongé si Louise n'avait entamé la conversation qu'il n'osait aborder. Elle voulut remercier le rémouleur du vêtement dont il lui avait couvert les épaules, et elle passait la main sur l'objet qui avait apporté un peu de soulagement au froid qu'il avait saisi, lorsque tout à coup elle s'écria « Mais c'est votre ami, cela ! Eh bien, et vous, Pierre ?» Le pauvre diable était pris au dépourvu. « Moi, j'ai ma limousine ?» Mon habit de dessous, ma veste en futaine, et puis encore. » À l'air d'incrédulité qui se dessinait sur la figure de Louise, il voulut compléter son généreux mensonge. Transi, grelottant, les lèvres ne pouvant presque plus s'arrêter de trembler, il s'exclama. J'en ai trop de vêtements, j'étouffe. Ces mots avaient rassuré Louise. Sans vous, Pierre, soupira-t-elle, je serais peut-être déjà morte. Morte? Dit le rémouleur qui ne put retenir un tressaillement. Hélas, oui, reprit l'aveugle en hochant tristement la tête. Je n'aurais pas eu la force de supporter la vie que je mène. Cette phrase, qui était un sanglant reproche adressé à la famille Frochard, à sa famille, à lui, agita douloureusement le cœur du pauvre garçon. « Oui, fit-il en baissant la voix, on vous rend bien malheureuse chez nous. » Puis, comme s'il eût été entraîné à se justifier et à se faire pardonner d'appartenir à cette famille de misérables qui torturait la malheureuse fille, il ajouta. « Mais qu'est-ce que je fais, moi, pour adoucir votre sort? Je ne puis rien, hélas. » Louise ne savait que trop qu'elle ne pouvait rien attendre de la bonne volonté du rémouleur. Elle se rappelait les efforts impuissants que Pierre avait tentés en sa faveur, alors que l'implacable mégère sévissait cruellement pour vaincre ce qu'elle appelait l'obstination de l'aveugle. Elle voulut cependant exprimer sa reconnaissance envers celui qui aurait désiré se faire son protecteur, bien qu'il n'eût pas réussi dans ses espérances. « Dès les premiers mots que vous m'avez adressés, dit-elle, j'ai compris que vous seriez pour moi un ami, peut-être un jour un défenseur. » « Un défenseur, moi ? » soupira le pauvre boiteux. « Hélas, mon cœur se révolte à la vue de vos souffrances, et lorsqu'on vous maltraite, j'ai des accès de colère et de désespoir. Mais je suis bien faible, et quand je voudrais vous secourir, je vous le répète, je ne peux rien, rien. « Rien ? » répondit Louise. « Et ces bonnes paroles que vous m'adressez, et ces soins de chaque jour, et tout à l'heure encore ?» En prononçant ces mots, elle portait sa main à l'habit que le rémouleur avait placé sur ses épaules frissonnantes. Et elle ajouta tout émue. « Mais c'est votre pitié qui soutient mon courage, et je vous remercie, mon ami. » L'aveugle avait tendu à Pierre une de ses mains que le brave garçon saisit avec empressement. Mais pendant qu'il tient cette main glacée dans les siennes et qu'il cherche à les réchauffer, Louise a de son autre main, demeurée libre, tâté le bras de son ami. Elle a voulu s'assurer que celui qui, pour l'en revêtir, s'est dépouillé de son habit, n'est pas resté exposé au froid intense qui sévit. Et s'apercevant que Pierre n'a conservé sur son corps transi qu'une misérable chemise, elle s'est écriée « Ah, égoïste que je suis !» Puis, retirant vivement l'habit de dessus ses épaules, elle le tend au jeune homme. « Non, non !» dit Pierre en repoussant doucement la main qui insiste pour lui faire prendre le vêtement. Mais Louise ne veut plus, maintenant qu'elle sait la vérité, continuer à abuser de la bonté de ce malheureux qui s'est dépouillé pour la garantir du froid. « Je le veux, Pierre, mon ami, » dit-elle avec une affectueuse autorité. « Je le veux. » Et tandis que le rémouleur, devant cette insistance contre laquelle il n'a pas le courage de lutter, reprenait son habit, l'aveugle ajoutait. « Je n'ai plus froid, d'ailleurs. Et puis, » continua-t-elle, « qu'est-ce que cela ? Auprès de tout ce que j'ai souffert. » Elle s'animait, la pauvre enfant, au souvenir de ce long martyre qui durait depuis le jour où il lui avait fallu résister, une première fois, à la volonté de celle qui lui avait imposé son horrible hospitalité. Elle trouvait des accents pleins de feu pour stigmatiser les violences qu'on lui avait fait subir. Et la poitrine haletante, elle s'écriait. « Nous la chercherons ensemble, m'avait dit votre mère, et j'ai compris plus tard ce que l'on exigeait de moi. J'ai compris qu'on ne m'avait recueilli que pour me couvrir de haillons, pour me dire « Maintenant, il faut tendre la main et demander l'aumône. » Son visage se contractait, ses grands yeux levaient vers le ciel leurs prunelles sans vie, et elle s'exclama d'une voix déchirante. « Ah, j'ai cru mourir de désespoir et de honte !» La malheureuse creusait plus profondément, plus douloureusement dans sa mémoire. « Il faut chanter, m'a-t-on dit. » Et avec un ton de souffrance inexprimable, « Chanter ? Comment l'aurais-je fait, hélas ? Les larmes étouffaient ma voix. » Avec déchirement, comme si elle se fût trouvée encore en présence de ce bourreau qui lui avait fait subir 1000 tortures, « Je ne peux pas ! Je ne peux pas » m'écriai-je. « Et pour m'y forcer, ils m'ont... » Le rémouleur avait fait un geste, et sa main avait frôlé le bras de Louise. La pauvre aveugle crut comprendre que tous ces souvenirs qu'elle évoquait était douloureux pour le brave garçon qui avait tenté vainement d'adoucir les souffrances qu'on infligeait à la malheureuse enfant. « Oui, vous savez tout cela, vous, » dit-elle. « Vous savez que pour me forcer à obéir, ils m'ont laissé 2 jours, 2 jours sans manger. » Et éclatant en larmes au souvenir qui lui vint de sa défaillance, de sa soumission. « Je n'ai pas eu la force de résister plus longtemps. J'ai demandé grâce, et pour un peu de pain, j'ai chanté. » Baissant la voix comme pour étouffer la honte qui débordait de son cœur. « Et je chante, tous les jours. » Pierre exhala une exclamation de douleur. « Et c'est ma mère !» reprit-il avec une indéfinissable expression de souffrance et de colère. « C'est elle et mon frère qui font cela. » Le malheureux se meurtrissait la poitrine. Dans sa fureur contre lui-même, il s'accusait de lâcheté, de complicité à ces actes honteux et cruels qui révoltaient sa conscience. Il leva des yeux hagards vers l'aveugle, et les mains jointes, les bras tendus. « Et moi, moi, ah, comme vous devez nous haïr !» Louise fit un geste de dénégation. « Vous ? Oh non, pas vous, mon ami !» Puis reprenant son récit. « Du reste, n'est-ce pas grâce à vos exhortations à la patience, à vos soins donnés à la dérobée, alors que vous profitiez des rares instants pendant lesquels on nous laissait seuls, à vos prières même, car vous me suppliez, Pierre, de ne pas me laisser aller au désespoir. N'est-ce pas grâce à vous, mon ami, que plus tard j'ai eu du courage ? Et ce qui me soutenait, continua-t-elle, c'est une inspiration qui m'est venue. Je me suis dit qu'en allant ainsi chanter et mendier, de quartier en quartier et de maison en maison, ma voix arriverait peut-être jusqu'à ma sœur, et que je serais sauvée. » La pauvre créature, transie de froid, épuisée, suffoquant, poursuivit avec véhémence. « Et je chantais alors, et je criais à la fin de ma chanson. « Henriette, c'est moi, Louise, ta sœur. M'entends-tu, Henriette, m'entends-tu » Pierre avait écouté sans interrompre. Suspendu aux lèvres de sa chair aveugle, il tressaillait comme s'il se fût trouvé encore présent à toutes ces scènes qu'évoquait Louise. « Oui, dit-il, mais un jour on a eu peur qu'elle ne vous entendît. Et l'on m'a ramené sans cesse aux mêmes endroits, hélas, j'étais condamné. Condamné à mendier, et cela sans espoir. Les malheureux, murmurait le rémouleur en proie à une violente agitation. Et quand je finis ma chanson, continua Louise, on ne me permet plus de crier et d'appeler Henriette comme je le faisais. Ou bien, si j'essaie encore. Pierre interrompit avec vivacité. Elle vous saisit les bras dans ses doigts de fer. Oh, je les connais, ces doigts-là. Louise exhala un soupir. La pauvre créature se souvenait de tout ce qu'elle avait dû supporter de cruauté. « Oui, » balbutia-t-elle avec des larmes dans la voix, « elle me sert à me briser le poignet. » Pierre frémissait de colère muette. « Oh, mais, » reprit l'aveugle en élevant la voix, « ça m'est égal que je me trouve dans un quartier nouveau. » S'exaltant tout d'un coup, elle continua, « elle peut me torturer, j'appellerai toujours. » Cette confiance que l'infortuné témoignait à Pierre agitait profondément le cœur du brave garçon. « Chut » fit-il en baissant la voix. « Dites-moi, pauvre enfant, lorsque vous désespériez de voir ma mère revenir à de meilleurs sentiments pour vous, n'avez-vous jamais eu la pensée de vous enfuir ?» Sans hésitation, Louise répondit. « Si fait, j'y ai songé. Mais à qui m'adresserais-je ? Et si quelqu'un pris de compassion pour une malheureuse s'intéressait par hasard à moi, qu'arriverait-il ? » Tristement, et se tournant vers le rémouleur, l'aveugle poursuivit. « Ne sais-je pas, hélas, que pour ceux qui sont comme moi, privés de la vue, la pitié consiste à les faire admettre dans un asile où sont enfermés les aveugles ? Est-ce du fond de cet établissement que je pourrais crier, appeler ma sœur ?»« C'est vrai, » répondit Pierre, atterré et baissant la tête. Louise se souvint alors de la consultation du docteur. Elle se rappelait que la Frochard lui avait déclaré qu'il n'y avait plus pour elle d'espoir de guérison. Son cœur se brisait, des larmes lui venaient aux yeux, et elle murmura. « L'asile serait, pour la pauvre incurable, le tombeau d'où elle ne sortirait plus, plus jamais. Oh, c'est affreux, c'est affreux !» Le rémouleur, la tête inclinée, assistait, muet d'émotion, à cette scène de désespoir qu'il s'accusait maintenant d'avoir en partie provoqué. Et pendant que Louise se lamentait ainsi, il cherchait dans sa pauvre tête si troublée quelque chose de consolant à dire. Alors, par la porte de l'église, que quelques personnes entr'ouvraient pour sortir, arrivèrent jusqu'à ces deux êtres accablés sous le poids de l'affliction la plus profonde, les modulations affaiblies de l'orgue. Puis les cloches se mirent en branle lentement. « Écoutez, dit Louise, la messe est finie, on va sortir de l'église. » Elle porta vivement la main à sa poitrine. En songeant qu'elle allait avoir à chanter, à tendre la main, à implorer la charité, elle sentait son cœur se serrer. « La mère va revenir, dit Pierre. Du reste, elle l'a dit en partant, elle doit nous guetter de là où elle se trouve. » Le pauvre garçon ne savait comment dire à l'aveugle de chanter. Il sentait bien cependant qu'il fallait obéir aux ordres de la mendiante. « Mamselle, commença-t-il timidement, vous savez, on sort déjà de l'église. » « Oui, je comprends, Pierre, ce que vous voulez me dire. Je sais aussi que l'on nous guette. » Et, ajouta-t-elle en courbant le front, si elle ne m'entendait pas chanter. « Pauvre enfant, murmura le rémouleur, en aidant Louise à se mettre à la place indiquée par la Frochard. L'aveugle s'agenouilla au bas des marches, et après avoir levé les yeux au ciel, comme pour le prendre à témoin de l'humiliation qu'elle subissait, la malheureuse chanta. « Ô passant charitable, venez à mon secours, mes jours sont lamentables, pour moi la nuit toujours. Soulagez ma misère, chacun vous le dira, à qui donne sur terre, au ciel Dieu le rendra. » En ce moment, le flot des fervents sortait de l'église. Au dehors, la neige avait redoublé. Les piétons, courbés, le cou enfoncé dans les cols de fourrure, se précipitent dans toutes les directions. Les valets de pied, attentifs, guettent l'instant où leurs maîtres paraîtront pour faire approcher les chaises. C'est le moment. Les mendiants et les vagabonds attendent pour faire leur récolte de sous et de deniers. Toute la bande, qui jusque-là s'est tenue accroupie et massée sur les marches, se lève aussitôt, comme des corbeaux qui vont prendre leur vol. Chacun entame son boniment qui varie selon l'âge, le sexe et l'infirmité. Il y a là, se pressant au-devant de ceux qui débouchent de l'église, des vieillards, goutteux, empaquetés, estropiés de tout genre, mutilés, exhibant des moignons hideux, des femmes au teint hâve, livide ou marbré de cicatrices repoussantes, puis des enfants dépenaillés, pieds nus, couvant la phtisie, au visage bleui par le froid, amaigri par la faim. Il y a là, entassés les uns près des autres, tout un monde d'exploiteurs de la charité publique. Tous, de même que la Frochard, considèrent la mendicité comme une honnête industrie qui doit rapporter un salaire régulier. Il y a là aussi les vagabonds qui n'ont ni feu ni lieu et qui mendient en attendant l'occasion de voler. Enfin, tout un ramassis de malfaiteurs et de bandits recrutés dans les bas-fonds de Paris et qui, pour se procurer quelque argent, sont prêts à tout entreprendre, mendicité, vol ou crime. Et tous ont plus ou moins la jalousie du métier. Quelques-uns lancent des regards furibonds à Louise que la Frochard a fait placer au meilleur endroit. « Elle piaille, celle-là » gronde une vieille à figure de chouette à demi cachée sous un mouchoir en fanchon. « Ça vient faire concurrence aux vrais malheureux, et ça a de la jeunesse, de la beauté, qui pourrait rapporter bien plus que l'aumône. C'est notre faute à tous si cette Frochard a de la hardiesse comme quatre, » murmura Manchot. « C'est pas avec ton moignon que tu tiendrais tête à son fils, peut-être bien, » glapit une petite fille sur les traits de laquelle le vice précoce a imprimé sa marque. Puis, le cœur des Jérémiades reprenait, plus perçant, plus acharné, au fur et à mesure que la foule devenait plus compacte. Il fallait littéralement jouer du coude pour se frayer un passage à travers cette haie de vagabonds, toujours repoussés, mais se reformant sans cesse. La sortie de la messe était toujours la meilleure affaire d'une journée, affirmait Jacques. Aussi, en entendant les cloches sonner à la fin de l'office, le chérubin avait-il pressé sa mère de vider son gobelet d'eau-de-vie. Mais la veuve tenait à déguster. « Attends un peu, » fit-elle en se levant de son tabouret, pour aller donner un coup d'œil du côté de l'église. « Je vais voir si le chardonneret s'égosille comme il faut. » Et la mégère était revenue auprès de son fils en disant « Pas besoin de nous presser, mon amour. Elle te récolte une bonne petite somme. »« Tonnerre !» fit Jacques en tapant du poing sur la table. « C'est dommage tout de même que ses yeux... »« Comment ? Qu'est-ce que tu dis ?» « Toi aussi, tu voudrais les rallumer, ces quinquets ? Pour l'or, à quoi qu'elle serait bonne ?» Elle noya à la fin de la phrase dans une gorgée d'eau de vie qu'elle fit glouglouter avec délice. Jacques l'interrompit. « Pierre, surveille-t-il la recette ? » demanda-t-il. « Pour sûr, mon amour, on peut se fier à lui pour ça. »«
Pour cela, soit. Mais faut pas que cet avorton veuille jouer pour de bon au petit Vénus.
T'as donc vu quelque chose avec ?»«
Qu'il y prenne garde, le chardonneret n'est pas pour lui, la mère. »«
Et pour qui donc, mon amour ?»
Jacques avala le contenu de son gobelet sans répondre. En ce moment, trois hommes venaient de s'attabler à une des tables placées plus loin. La Frochard, en les voyant, avait fait la grimace.
« C'en est !» dit-elle tout bas à Jacques.
Mais celui-ci sans lever la tête.
« J'en connais bien deux sur les trois. »
Et affectant de tourner le dos aux nouveaux venus, qui, du reste, paraissaient très occupés à causer entre eux, il continua de parler bas à sa mère.
« Tu vois, celui de droite ?»«
Le petit gros ?»«
Oui, c'est Mareste. »
« Qui ça, Mareste ?»«
Un malin. Écoute bien ce qu'il dira, ça doit nous intéresser. »
Et les autres ?
S'informa la mendiante.
Le grêlé ?
Il se nomme. Au fait,
qu'est-ce que ça nous regarde ?
Et riant. Quand tu vois de mauvaises mouches, suffit de savoir que ça en est pour les éviter, avant qu'elles vous piquent. Depuis que la Frochard se savait en société des employés de monsieur le lieutenant de police, elle ne tenait plus à rester au cabaret. Mais cette fois, Jacques l'y retint.
Qu'est-ce que t'as donc à mettre ainsi ton vif argent en mouvement ? Puisque la recette marche là-bas, pas besoin de se déranger.
Mareste et ses deux amis continuaient à causer.
Ma foi, dit le plus âgé, je ne m'attendais pas, mon cher monsieur Mareste, à trinquer avec vous cet après-midi, à la sortie de la grand-messe.
Alors, mon cher monsieur Picard, nous sommes donc allés faire nos dévotions à Saint-Sulpice?
J'avais affaire, là-dedans. Et vous?
Oh, nous, ricana l'autre agent, nous avons affaire partout. Surtout depuis qu'on nous a donné pour tâche de découvrir une demoiselle.
« Jacques, » fit à mi-voix la Frochard,
« t'entends ?»«
Ben quoi, une demoiselle, il y en a des masses !» riposta en sourdine le souteneur.
« Oui, » continua Mareste, « trouver une jeune et jolie fille qu'on a enlevée. »«
C'est très facile, n'est-ce pas ?» dit Picard.
« Jacques, » grommela la mendiante fort agitée, « il a dit jeune et jolie. »
Après, il n'a pas dit aveugle.
Malgré tout ce que pouvait lui dire son fils, la veuve n'était pas tranquille. Au surplus, depuis que le médecin était intervenu dans ses affaires particulières avec son gagne-pain, elle ruminait déjà de quitter sa masure de la rue de l'Oursine afin qu'on ne pût pas la prendre au gîte. Néanmoins, sur un signe de Jacques, elle continua à prêter attentivement l'oreille à ce que disaient les trois hommes, parmi lesquels on a déjà reconnu Mareste, l'agent en chef de la lieutenance de police, ce roué personnage qui avait tenu tête, ainsi qu'on l'a vu précédemment, à M. de Lignières. L'autre individu, que Jacques ne reconnaissait pas pour un agent, était cet original valet de confiance que le comte avait placé auprès de son neveu, le chevalier de Vaudrey. On se rappelle comment, après avoir donné sa démission, parce que Roger se rangeait d'une façon indécente, prétendait-il, ce domestique, comme on en voit rarement, avait consenti à rentrer au service du chevalier dès qu'il avait appris que le jeune gentilhomme avait une maîtresse et qu'il le soupçonnait de vouloir de nouveau mener la grande vie. Or, on le sait, M. de Lignières avait chargé ce très intelligent et très dévoué Picard de découvrir où Roger de Vaudrey cachait sa nouvelle maîtresse, cette demoiselle pour laquelle il refusait une femme choisie par le roi lui-même.
« Nous le saurons, monseigneur, » s'était écrié Picard dans le feu de l'enthousiasme.
« Nous le saurons. Vous pouvez vous fier à moi. »
Mais la vérité était que le valet, si certain de son fait, avait aujourd'hui recours à la police de M. de Lignières pour découvrir où se trouvait le nid d'amoureux qu'il s'était chargé de trouver. Aussi, sachant que tous les jours à midi, Mareste avait l'habitude de donner rendez-vous à ses hommes, dans ce cabaret de la place Saint-Sulpice, Picard était allé attendre l'heure convenue dans l'église. Ajoutons qu'il y avait vu la comtesse, ce qui ne lui parut pas extraordinaire, car il savait que la femme du premier magistrat de la police ne manquait jamais la grand-messe. Dès que Picard avait vu les agents pénétrer dans le cabaret, il les y avait rejoints. La conversation avait commencé par quelques lieux communs, puis le valet s'était décidé à entamer nettement la question qui l'intéressait. Mareste le laissait aller, le tenant en arrêt sous ses deux yeux, petit mais étincelant, de policier.
« Voyons, voyons, mon cher monsieur Picard, dit-il tout à coup, en souriant. « Qu'avez-vous à tourner ainsi autour du pot? Est-ce que vous auriez la prétention de jouer au plus fin avec nous ?»«
Ça n'est pas votre métier, » ricana le second agent. Picard laissa s'éclairer son visage.
« Eh bien, ma foi, » dit-il, « j'avoue que je voudrais bien savoir... »«
Je vais vous le dire, » interrompit Mareste. Le domestique de Roger regarda son interlocuteur d'un air absolument ébahi.
« Ça vous étonne, ça, hein ?»
fit le subordonné de Mareste.
« C'est que, voyez-vous, nous sommes tous un peu somnambules dans le métier. »«
Tenez, mon cher monsieur Picard, » commença l'employé, « vous voudriez, en ce moment, savoir où va tous les jours votre jeune maître ?»«
Juste !» s'exclama Picard.
« Et, » reprit Mareste triomphant, « vous avez beau le suivre, vous n'avez pu encore comprendre comment il vous glissait entre les mains. »«
C'est pourtant vrai, monsieur Mareste. »
« Eh bien, tout ça, c'est manque d'habitude, monsieur Picard. »«
C'est que vous ne savez pas filer comme il faut, »
déclara l'agent avec importance. Picard continuait à ouvrir tout grand ses yeux étonnés.
« Je ne sais peut-être pas filer aussi habilement que vous, messieurs, » fit-il. « Chacun son métier en ce monde. Seulement... »«
Seulement, mon bon monsieur Picard, lorsque vous êtes arrivé à un certain endroit, crac !»«
Oui, mon oiseau s'est envolé comme par enchantement. »
sans que vous ayez pu vous rendre compte par où il avait passé.
« Hein? Vous savez donc ça, monsieur Mareste ?»«
Oui, mon excellent monsieur Picard, » ricana l'employé de la lieutenance.
« Et je sais aussi qu'à ce jeu, vous passerez tout le temps qui vous reste à vivre sans pouvoir découvrir ce que vous cherchez. »«
C'est comme vous le dit le chef, » déclara l'agent subalterne.
« Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Mareste ?»«
Il faut, parbleu, il faut que je vous aide, monsieur Picard. »
Le vieux domestique faillit tomber à la renverse dans le mouvement qu'il fit pour témoigner de sa joie à la nouvelle que le principal agent de monsieur le lieutenant de police voulait bien consentir à le tirer d'embarras.
« Vraiment ? » s'écria-t-il. « Vous consentiriez ?»
Puis fouillant dans sa poche pour y prendre sa bourse.
« Mais alors, il n'y a pas de temps à perdre. Du moment qu'il en est ainsi, allons-y tout de suite !»
Il avait, tout en parlant, pris un écu et appelé le garçon pour payer.
« Alors, disions donc, mon cher monsieur Mareste, » reprit-il de sa voix la plus aimable, « que vous savez où se rend mon jeune maître ?»«
Oui, monsieur Picard. »«
Et vous allez me l'apprendre ?»«
Oui, monsieur Picard. »«
Eh bien ?»«
Quoi ? Que désirez-vous, monsieur Picard ?»«
Parbleu, que vous m'indiquiez l'adresse. »«
Pour ça, non, mon cher monsieur Picard. »«
Alors, comment entendez-vous ? Vous rendre le service que vous attendez de moi ?»
Picard fit de la tête un signe affirmatif.
« Hola, garçon !» cria le vieux domestique, étendant son écu au jeune garçon qui se présenta. « Payez-vous !»
Puis, s'adressant à Mareste.
« Et maintenant ?»
L'agent tira une grosse montre à soc de ses choses.
« Saperlotte, » fit-il, « voici précisément l'heure.
« Vous avez quelque chose de pressé à faire ?» demanda avec une pointe d'anxiété Picard.
« Plusieurs, mon cher monsieur. »
et consultant des tablettes qu'il prit dans sa poche.
« Voir si... » s'interrompant.
« Bien, 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 c'est fait. »
« Après !» fit Picard.
« Prévenir les agents pour 3 heures. »«
Bien, ça y est. »
Mareste continua à parcourir des yeux ses tablettes jusqu'à la fin.
« Ah oui !» fit-il tout à coup. « Il y a encore cela. »« Quoi donc ?» demanda Picard avec vivacité.
« Mon Dieu !» « Je pourrais bien vous faire languir un peu, mais comme je vous vois dans l'huile bouillante, mon pauvre monsieur, je vais vous dire la chose. Cela concerne encore votre maître. »«
Le chevalier ?»«
Précisément. »«
Et il s'agit ?»«
De savoir quel intérêt peut avoir monsieur le chevalier Roger de Vaudrey à courir Paris jour et nuit. »«
Jour et nuit ?» s'exclama le vieux domestique.
« À réveiller les gens qui dorment !» continua imperturbablement Mareste. Pour demander si on n'a pas vu, trouvé ou caché.
« Quoi donc ?»
interrogea Picard en sursautant.
« Une demoiselle, parbleu !»
répondit l'agent en éclatant de rire.
« Ah, je vous reconnais bien là. C'est bien notre affaire à nous autres, scélérats, de chercher les jolies filles !» s'écria le valet du chevalier en se donnant de grands coups de poing sur la poitrine pour manifester la joie qu'il éprouvait.
« Tout doux, mon cher monsieur Picard !» interrompit Mareste. « Ce serait fort bien si la demoiselle en valait la peine. Mais il paraît qu'elle est... »«
Qu'elle est quoi ?»«
Elle est aveugle, monsieur Picard. »«
La Frochard reposa vivement sur la table le gobelet qu'elle allait porter à sa bouche. Jacques lui appuya la main sur le bras. Et les deux misérables échangèrent rapidement un regard. Au bout d'une seconde, le fils dit à sa mère « On cherche le chardonneret. Pour l'or, faudra le changer de cage. Patience, on ne le tient pas encore, » fit Jacques en se retroussant la moustache. « Je te crois, mon cher Rubin. Qu'est-ce que nous deviendrions alors ?» La mégère avait fait signe à son fils de continuer à écouter. Mais il ne devait pas en apprendre plus long. En effet, l'agent Marest avait dit à Picard « Si vous voulez être renseigné sur ce qui vous intéresse, il faut nous suivre. » Picard, ne s'étant pas fait prier, les trois hommes avaient immédiatement quitté le cabaret. Lorsqu'ils furent sur le pas de la porte, la Frochard se leva comme pour s'élancer sur la place. Jacques la retint par le bras. « Pas d'imprudence, la mère, » dit-il en obligeant la mendiante à s'asseoir de nouveau. « Faut laisser filer ces gaillards-là. Après, l'on fera le nécessaire. » « Dénicher le chardonneret, » grommelait la veuve en se versant de l'eau-de-vie. « Faudrait que tu n'aies plus une goutte de sang des Frochards dans les veines, mon amour, pour les laisser faire. » Et elle plongea son regard d'oiseau de proie dans les yeux de son fils. Au moment où Marest, accompagné de Picard et de l'agent, débouchait sur la place Saint-Sulpice pour aller gagner la rue de Condé, la foule était extrêmement compacte aux abords de l'église. Sur la place, les chaises à porteurs ne circulaient que difficilement au milieu des groupes. À peine les hommes avaient-ils disparu à l'entrée de la rue de Condé que la comtesse de Lignières paraissait à son tour sortant de l'église. L'ayant aperçue, le valet de pied avait fait approcher la chaise à peu de distance des marches et en tenait la porte ouverte. Mais Diane de Lignières, au moment de descendre, s'était arrêtée sur les marches et regardait avec compassion la jeune aveugle. « J'ai bien demandé à Dieu de me faire retrouver ma fille, » dit-elle en levant les yeux au ciel. En même temps, elle glissait une aumône dans la main que Louise tendait aux passants. « Dieu m'aura-t-il entendu ?» se demandait cette mère au moment où, de sa main tremblante, elle laissait tomber une aumône dans la main de sa fille. Elle se disposait à rejoindre sa chaise lorsque l'aveugle murmura d'une voix émue « Merci bien, madame !» Puis, se rappelant la recommandation de Pierre, la pauvre entonna la romance que la Frochard l'obligeait à adresser aux âmes charitables. La voix de Louise, rendue chevrotante par le froid qui engourdissait la malheureuse enfant, avait des intonations douloureuses qui allaient à l'âme. Quelques personnes, en dépit de la neige qui tombait toujours, s'étaient arrêtées pour l'entendre. Et la pauvrette, les mains tendues, chantait. « Ô ma tendre Musette, Musette, mes amours, toi qui chantais Lisette, Lisette et les beaux jours, d'une vaine espérance tu m'avais trop flattée, chante son inconstance et ma fidélité. » La comtesse avait écouté sous l'empire d'une impression qu'elle ne pouvait s'expliquer. Après les premières notes, c'est en vain qu'elle avait essayé de quitter les marches. Un charme la retenait immobile à cette place où chantait la jeune fille. Le son de cette voix lui faisait passer des frissons dans les veines. Elle écoutait, émue et recueillie, comme elle l'était tout à l'heure en écoutant les cantiques que l'on chantait dans l'église. Pendant tout le temps qu'avait duré ce couplet, s'envolant des lèvres bleuies de l'aveugle, Diane était demeurée sous une impression poignante. Et lorsque la jeune fille eut laissé mourir la dernière note dans un soupir plaintif, la comtesse s'approcha de cette pauvresse, attirée malgré elle. Était-ce seulement un sentiment de pitié qui poussait cette mère à s'approcher ainsi de son enfant? N'y avait-il pas, dans le mouvement que fit Madame de Lignières pour tendre la main vers cette mendiante, la volonté de la Providence? Lorsqu'arrivée tout près de Louise, cette grande dame n'éprouva aucune répugnance à adresser la parole à une malheureuse en haillons, n'entendait-elle pas une voix intérieure lui parler de l'enfant qu'elle avait abandonné, de la fille qu'elle pleurait depuis la nuit fatale de son hymen, de la pauvre créature qu'elle cherchait depuis si longtemps et qu'elle désespérait de revoir? Tout à coup, au moment où elle allait questionner la mendiante, Diane étouffa une exclamation. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Ce regard fixe !» Elle ne pouvait plus maintenant détacher ses yeux de ceux de Louise. Elle les regardait, ses pauvres yeux, qui remuaient sans vie sous les paupières. Et doucement, d'un ton maternel. « Mon enfant, » demanda-t-elle, « est-ce que vous ne voyez pas ?» Au son de cette voix, Louise avait tourné vivement la tête du côté où se trouvait Madame de Lignières. Elle ne tremblait plus. Il lui vint une légère rougeur au front
comme une auréole. Et sans manifester de chagrin à propos de la question qu'on lui posait, elle répondit simplement « Non, madame, je n'y vois pas », et se reprenant aussitôt « Je n'y vois plus. Ah, quel malheur !» Cette exclamation de pitié qui s'échappait des lèvres de la comtesse pénétra au fond du cœur de Louise. Une lueur vint animer ses joues. « Vous me plaignez, madame ? » dit-elle. « Oui, » répondit Diane en frôlant de sa main gantée la main de Louise. « Oui, » répéta-t-elle avec une douce émotion. La pauvre fille se rapprochait instinctivement de cette dame qui s'était intéressée à elle d'une façon si étrange. Elle voulait parler à cette généreuse personne. Elle le voulait, mais retenue par la crainte d'être surprise par cette terrible femme qui l'avait asservie à cette détestable volonté, elle n'osait plus. La confidence s'arrêtait sur ses lèvres. « Qu'éprouvez-vous donc, mon enfant ? » dit la comtesse à mi-voix. « Vous souffrez ? Je vous ai sans doute fait de la peine en vous parlant de votre malheur. » Cette fois, Louise n'éteint plus. Une occasion se présentait à elle de dire ce qu'elle avait souffert, de révéler le rôle odieux que lui imposait la Frochard. Elle résolut de la saisir, et trouvant une force et un courage qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, elle approcha sa figure animée maintenant par l'espérance, comme si elle eût voulu parler à l'oreille de cet inconnu en qui elle avait eu instinctivement confiance. Et bien doucement, étouffant ses paroles. « Vous me plaignez parce que je suis aveugle, » dit-elle. « Eh bien, ce n'est pas le plus grand des malheurs qui m'ont frappée. » Ah, si en ce moment la fatalité n'avait pas fait que du seuil du cabaret où elle se trouvait, la Frochard eût vu ce qui se passait sur les marches de l'église. Si elle n'eût pas aperçu cette grande dame, après avoir donné une aumône à l'aveugle, demeurant auprès de celle-ci, alors que depuis quelques minutes déjà, le valet de pied tenait ouverte la porte de la chaise. Si cette mégère, rapace, n'avait point éprouvé le besoin d'aller débiter sa jérémiade habituelle pour faire meilleure recette, c'en était fait. Louise eut probablement vu se terminer les horribles épreuves qu'elle subissait. La pauvre aveugle eut, dès ce même soir, trouvé un asile autre que le sordide grenier où la reléguait la Frochard. Elle n'eut plus reposé sa tête, sa pauvre figure amaigrie par la douleur et les privations, sur ce grabat infect qui lui servait de lit. Elle eût pu dire à son bourreau « Je ne vous obéirai plus, madame. Je ne vous suivrai plus pour mendier, comme vous m'avez obligée à le faire. Vous ne me traînerez plus à votre bras, me meurtrissant les chairs pour me faire chanter, me broyant la main lorsque je veux appeler Henriette, ma sœur bien-aimée. Non, vous ne me torturerez plus, car aujourd'hui j'ai trouvé des protecteurs puissants qui vont m'aider, eux, à chercher celle que vous semblez avoir pris à tâche de m'empêcher de rencontrer. » Il s'en fallut de quelques secondes. La Frochard avait, avec rapidité, traversé la place, se frayant un passage au milieu des chaises à porteurs qui filaient dans toutes les directions. Elle ne s'arrêta pas à tendre la main aux passants, comme elle n'eût pas manqué de le faire en toute autre circonstance. Elle avait hâte de retourner auprès de son gagne-pain, qui était, pensait-elle, en bonne voie pour faire recette. Elle se réjouissait, cette ignoble créature, de ce que la malheureuse aveugle avait eu à souffrir du froid assez pour donner à sa voix une expression plus touchante. Et dans son désir d'aller encaisser l'argent qu'elle avait vu donner à Louise, la veuve de supplicié se pressait pour ne pas manquer l'occasion de remercier elle-même la dame charitable qui avait coopéré à la recette qu'allait bientôt empocher le chérubin. Elle arriva au bas des marches au moment où la comtesse de Lignières répondait à la phrase de Louise. Elle entendit ces mots. « Que dites-vous ? Parlez, pauvre petite, parlez !» D'un bond, elle enjamba les marches. « Je suis riche, » continuait Diane, « et je pourrais peut-être... » Louise était transfigurée. Un reflet de joie intérieure illuminait ses traits. Son sein, oppressé par le froid, se soulevait d'émotions contenues. Elle tenait son visage si expressif, tourné du côté d'où venait cette voix qui lui avait parlé de bonheur possible, d'espérance réalisable. Et entraînée à la confidence qu'on lui demandait avec une si généreuse insistance, « Ah, si j'osais » murmura-t-elle. « Hein ?» fit la Frochard en se rapprochant pour écouter ce qu'allait dire l'aveugle. La comtesse, n'ayant pas fait attention à cette vieille mendiante, continua sur le même ton rempli d'intérêt pour la jeune fille. « Vous avez une famille ? Une mère ?
Louise sentit tout son sang bouillonner en elle. Une inexprimable sensation l'étreignit au cœur à ces mots qu'on faisait résonner à son oreille. « Une famille, une mère » s'écria-t-elle avec force. Mais aussitôt la voix s'éteignit sur ses lèvres. Ses traits, naguère encore empreints d'une lueur d'espérance, se contractèrent subitement. Elle avait senti et reconnu la main osseuse de son bourreau. Elle entendait la Frochard, qui, ayant passé sa tête de reptile entre elle et la dame inconnue, s'empressait de répondre. « Oui, ma belle dame, oui, elle a une famille, une mère, une bonne mère, j'ose le dire. » Et tandis que l'aveugle, glacée d'effroi, gardait le silence, madame de Lignières, se tournant vers la vieille, lui disait avec compassion. « Ah, c'est votre fille !» L'horrible femme n'en était pas à son coup d'essai, en fait d'hypocrisie et de mensonge. Elle prit son air cafard et sa voix traînante pour dire à la comtesse. « Oui, madame, c'est ma fille, la plus jeune de mes sept que j'ai eu bien du mal à élever. » Et tenaillant sans qu'on s'en aperçût, le bras de la pauvre victime muette de stupéfaction et de terreur, elle ajouta. « C'est ce que la petite allait vous dire, ma bonne dame charitable. » Cette infamie fit monter la colère aux lèvres de Louise. Elle eut l'impression qu'une minute de courage la sauverait. Elle essaya de faire enfin éclater la vérité et de confondre la misérable qui la tenait dans ses griffes. Ces mots lui vinrent comme une protestation. « Moi, je... » La veuve comprit ce qui se passait dans l'âme de sa victime. Elle serra le poignet de la malheureuse qui baissa la tête, étouffant le cri que la douleur allait lui arracher. La Frochard s'était tournée vers elle et lui disait d'un ton hypocrite et mielleux. « Pas vrai, mon enfant, que je suis bien méritante, et que pour une bonne mère, je suis une vraie bonne mère qui s'est toute sa vie sacrifiée pour vous autres. » Comment la Providence n'envoya-t-elle pas à Louise, pour confondre cette infâme créature souillée de tous les vices, la force de relever la tête et de lui crier « Vous mentez !» Comment cette infortunée put-elle supporter sans horreur que la veuve du supplicié, la mère de Jacques Frochard, l'appela sa fille? Il fallait que l'implacable harpie eût bien cruellement meurtri cette pauvre nature honnête, eût horriblement torturé cet enfant angélique, pour amener Louise, la sainte créature, à se mettre de moitié dans ce mensonge révoltant. Elle se savait donc bien certaine de ne pas être stigmatisée, comme elle méritait de l'être, pour oser souiller cette infortunée de ces mots « mon enfant ». L'aveugle était en effet retombée plus profondément que jamais dans le gouffre où l'avait précipitée la mendiante. Plus que jamais, elle était retenue dans les griffes de ce vautour qui se rassasiait de ses douleurs, de son désespoir, de ses larmes. La tête perdue, le cœur bourrelé, la poitrine oppressée par les sanglots, Louise n'avait plus cette force passagère qui l'avait soutenue pendant un instant. Son âme défaillait. Et c'est en chancelant au bras de la mendiante qu'elle entendit la dame inconnue dire « Elle est bien pâle et semble toute malade. » La Frochard s'était empressée de répondre. « Les bonnes âmes charitables en ont compassion, ma bonne dame charitable. » On lui donne un peu d'argent, et avec ça, une fois rentrée, elle est bien soignée, bien dorlotée. Pas vrai, ma chérie ? » Et pour obliger l'aveugle à répondre ainsi qu'elle le désirait, la mendiante serra de nouveau le poignet de Louise, meurtrissant ses chairs si fines, si délicates. Et tout bas, elle lui dit en grinçant des dents. « Et parle donc !»«
Oui, oui, »
répondit la malheureuse avec effort. Et vaincue, elle demeura immobile, tremblante, la tête inclinée. Diane de Lignières s'approcha et lui mit une pièce de monnaie dans la main en lui disant « Tenez, mon enfant, vous donnerez cela à votre mère. » Puis avec tristesse, elle ajouta « Et vous prierez Dieu pour moi. » Louise voulut répondre une fois encore à celle qui avait confiance dans la prière qu'une infortunée adresserait à Dieu. Et bien doucement, elle murmura « Je vous le promets, madame. » Lorsqu'au silence qui suivit, Louise eut reconnu que la dame qui s'était intéressée à elle n'était plus là, à ses côtés, il sembla à la jeune fille qu'un abîme venait de se creuser sous ses pieds, et qu'un nouveau malheur venait de la frapper. Et tandis que les derniers mots que lui avait adressés l'inconnu bruissaient encore à son oreille, elle se retrouva plus seule, plus abandonnée que jamais. Sa pauvre tête se troublait au souvenir de l'émotion si douce qu'elle avait éprouvée à s'entendre parler avec tendresse. Et elle souffrait cruellement en pensant que cette lueur s'était effacée, que ce scintillement qui avait réjoui son cœur avait disparu, que c'était désormais la nuit noire pour son âme, comme pour ses yeux morts. Elle comprenait clairement à cette heure aucune illusion. Le règne de la Frochard allait recommencer avec toutes ses exigences, toutes ses cruautés. La mégère savait maintenant ce qu'elle pouvait attendre de ressources d'une infortunée dont l'aspect arrêtait le passant, dont la voix dolente et les vraies larmes excitaient la compassion. Alors, c'était l'esclavage éternel, à moins de s'y dérober par la mort. Mourir. Louise avait-elle cette ressource pour échapper à son bourreau? Pouvait-elle disposer d'elle-même, alors que surveillée, elle n'avait pas un seul instant de liberté? Et puis, Henriette, n'était-elle pas cet élément qui maintenait vivace dans le cœur de l'aveugle un souvenir éloignant l'idée du suicide? Non, pas d'issue. Partout la captivité pour la jeune fille, la honte pour l'aveugle réduite à mendier, le désespoir pour l'orpheline qui avait perdu cette autre orpheline et qui se consumait dans de perpétuelles angoisses. Pendant que Louise passait par cette terrible réaction, la comtesse de Lignières avait descendu les marches lentement. Elle était montée dans la chaise et le valet attendait les ordres. « Où va madame la comtesse ? » demanda-t-il après quelques secondes. Et ne recevant pas de réponse, il ajouta « À l'hôtel ?» Seulement alors, Diane sembla sortir de la profonde rêverie dans laquelle elle s'était absorbée. « Non, répondit-elle, pas à l'hôtel. » Elle venait de se souvenir qu'elle avait promis au chevalier de voir la jeune ouvrière qui avait si profondément troublé le cœur de Roger. Moins que jamais, après l'émotion qu'elle venait de ressentir en présence de cet aveugle, la comtesse eût voulu manquer à ce qu'elle considérait comme une preuve d'affection maternelle à donner à son neveu. Elle avait vu dans les yeux du chevalier une si énergique protestation contre le mariage qu'on voulait lui imposer, qu'elle avait compris que devant une aussi inébranlable résolution devaient disparaître ses propres hésitations. Le chevalier de Vaudrey avait si chaleureusement plaidé la cause de l'honnêteté pauvre et de la vertu qui travaille que Diane s'était sentie vaincue. Elle avait regretté les paroles un peu sévères par lesquelles elle avait répondu, tout d'abord, à la confidence que lui faisait son neveu. Elle avait protesté, au nom de la famille de Vaudrey, contre l'idée d'une mésalliance. Mais maintenant que le chevalier lui avait ouvert son cœur, maintenant elle comprenait qu'un mariage imposé à Roger serait pour lui une source de désespoir et de larmes, semblables au désespoir qu'elle avait subi, aux larmes qu'elle avait versées. Et sans hésiter, elle dit au valet qui se tenait toujours à côté de la chaise, « Faites-moi conduire à l'adresse que je vous ai donnée. » Le valet qui précédait la chaise, ayant indiqué au porteur la direction à prendre, ceux-ci allongèrent le pas, suivirent la rue Dauphine jusqu'au quai. Puis, s'engageant sur le pont Neuf, ils traversèrent la Seine pour aller longer le vieux Louvre. Il s'agissait maintenant d'arriver à l'entrée du faubourg Saint-Honoré en parcourant un certain nombre de petites rues qui s'enchevêtraient les unes dans les autres tout autour de l'église Saint-Roch. Nous laisserons la femme du lieutenant de police en route pour le quartier où se trouvait la chambre d'Henriette et nous reviendrons sur cette place Saint-Sulpice où nous avons laissé Louise chantant lamentablement sa romance devant les derniers fidèles qui sortaient de l'église pendant que la Frochard pleurnichait son éternel boniment. « Ayez pitié d'une pauvre aveugle, mes bonnes âmes charitables, le bon Dieu vous le rendra. » La place commençait à se faire déserte. La neige piétinée formait de larges flaques de boue. Le ciel s'était refermé, plus noir, sur une fugitive éclaircie. Il neigeait dru. Les flocons, mêlés de grêle fine, cinglaient le visage des passants. La bande de mendiants et de vagabonds s'était enfuie, comme un vol de corbeaux, vers les carrefours sombres et les ruelles étroites. « Faut déguerpir, » avait dit la Frochard, « il n'y a plus rien à récolter par ici. Plus un denier. » Saisissant alors la main de l'aveugle, « Quoi qu'elle t'a donné pour ta mère » demanda-t-elle de sa voix aigre. Et avant que Louise eût pu lui remettre l'argent qu'elle tenait, la rapace mendiante lui avait broyé les doigts en s'écriant « Un louis d'or !» Les yeux de la mégère s'ouvrirent aussi grands que le permettaient des paupières bridées. « Mazette » fit-elle en prenant le bras de Louise. « Faut croire, ma petite,
que vous avez quelque chose qui plaît dans la voix. Faudra cultiver ce trésor-là, c'est précieux ça. Et je ne changerai pas mon chardonneret pour le plus beau rossignol des bois. »
Elle gratifiait presque l'aveugle d'amabilité qui sonnait faux dans sa bouche d'énergumène. En voyant venir à elle ses deux fils, la mendiante avait rapidement fait disparaître la pièce d'or dans les profondeurs de l'immense poche qui pendait à sa ceinture et où elle engouffrait pêle-mêle la recette monnayée et les vivres pour la journée. C'était, pensait-elle, une réserve qu'elle allait mettre de côté pour le chérubin.
« Il a encore la monnaie du petit écu, se disait-elle. Et faut pas lui faire voir la pièce qu'elle a jaunisse. Il la soignerait tout de suite. »
Et elle ajoutait tout haut, en grimaçant son sourire habituel. « Je le connais, mon amour. » La joie de la Frochard débordait dans le monologue qu'elle s'adressait à elle-même, tout en aidant l'aveugle à descendre les quelques marches au haut desquelles la pauvre enfant s'était agenouillée pour chanter. Elle affectait de prendre même certaines précautions qui n'étaient guère dans ses habitudes.
« Là, là, doucement, » disait-elle en indiquant les pas à faire. « Faut pas dégringoler. Il n'y a rien qui fausse la voix comme ça. »
Puis, lorsque l'aveugle eut atteint le sol, « Je crois, ma petite, » lui dit la mégère, « que la journée sera joliment bonne. » Et mentalement, elle répétait « Plus que ça de générosité, un louis d'or !» Son œil de vautour avait lancé un regard à Jacques pour désigner à celui-ci la direction qu'elle allait prendre et entraînant Louise.
« En route, ptiote !»
commanda-t-elle. Puis, voyant que la jeune fille, épuisée, avait cessé de chanter, elle lui jeta grossièrement cette phrase qui était dans sa bouche un ordre auquel il fallait obéir aussitôt.
« On se reposera cette nuit. Mais à cette heure, faut roucouler encore. »
Louise fit un signe qui dénotait qu'elle n'en pouvait plus. La malheureuse avait placé sa main glacée sur sa poitrine comme pour protester de son épuisement. Mais le bourreau sans entrailles n'entendait pas qu'on lui gâtât sa recette.
« Quoi ? » fit-elle. « De la fainéantise dans un si bon jour ? Faut pas y penser, ma colombe !»
Et durement, de ce ton bref qui faisait tressaillir d'effroi l'infortunée vouée à l'éternel supplice.
« Entonnez-moi ça ! Bien vite, et de la voix !»
Louise poussa un soupir, et faisant gémir sa pauvre poitrine sans souffle que le froid paralysait, elle essaya d'obéir.
« Va toujours !» lui criait la Frochard. « Si ta romance est gelée, elle se réchauffera à la longue !»
L'aveugle se mit en marche, grelottant, les pieds s'enfonçant dans la neige fangeuse. Elle allait, chantant de sa voix de lente. « Oh, ma tendre Musette, Musette, mes amours !» Peu à peu, la voix de la malheureuse se perdit, affaiblie, dans le lointain. Pierre avait, ainsi que nous l'avons dit, quitté le coin de rue où il s'était tenu pour ne pas être vu à côté de la vieille mendiante sans vergogne qui se faisait rudoyer à force d'obséder les passants. De l'endroit où il était, il avait assisté, sans y rien comprendre, à la scène qui avait eu lieu, sur les marches de l'église, entre l'aveugle et cette grande dame dont le valet attendait les ordres. Son cœur avait bondi lorsqu'il avait vu la dame si richement vêtue s'approcher de Louise et ne pas craindre de toucher la main de la pauvresse en haillons. « Bonne âme, s'était-il dit, c'est Dieu qui l'envoie auprès de cet affligé. » Il eût voulu pouvoir entendre les paroles que cette charitable personne adressait à l'aveugle. Ce ne pouvait être, pensait-il, que des paroles de consolation. Et malgré lui, le rémouleur se surprenait à faire quelques pas dans la direction de l'église. Si sa maudite timidité ne l'avait cloué sur place, lorsqu'il avait vu la Frochard s'élancer vers l'église, il aurait parcouru d'un trait la distance qui le séparait de l'aveugle. Il serait arrivé à temps pour entendre l'inconnu exhorter la jeune fille à lui raconter ses malheurs. Et il se serait écrié, voyant Louise interdite et hésitante, « Non, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de mère. C'est une pauvre créature qui meurt de désespoir et qu'on exploite. Sauvez-la, madame, sauvez-la !» Mais il avait vu la Frochard se précipiter vers la jeune fille et il devinait quel sentiment la guidait. Curiosité et cupidité. Il savait combien la mendiante avait peur de perdre, par un hasard quelconque, ce qu'elle appelait effrontément son gagne-pain. Et il se doutait bien que la misérable voulait se trouver là, toute prête à intervenir, pour souffler à Louise les réponses qu'elle aurait à faire aux questions de l'inconnu. Il avait vu que cette grande dame faisait l'aumône à l'aveugle et il se disait que la Frochard n'aimait pas à laisser longtemps l'argent dans d'autres mains que les siennes. C'est pourquoi le pauvre garçon ne bougea pas de sa place, piétinant dans la neige et soufflant dans ses doigts raidis par le froid. Il laissa s'accomplir sans s'en douter la triste destinée de celle qu'il eût voulu sauver au prix de sa propre existence. En ce moment, d'ailleurs, il était tout entier absorbé dans son adoration pour sa pauvre chère aveugle. Il la voyait, agenouillée et chantant, son cœur se dilatait. Les sons affaiblis de cette voix aimée lui arrivaient comme dans un rêve, et ce qu'il éprouvait tenait de l'extase. Il écoutait, répétant mentalement ces couplets qu'il avait entendus tant de fois, qu'il aimait à redire dans sa solitude. Ces vers plaintifs lui rappelaient Louise, alors que, courant les rues à la recherche de l'ouvrage, il attendait avec patience l'heure du retour à la masure. Il écoutait, heureux, parce que Louise, tout à l'heure, lui avait parlé avec affection, parce qu'il l'avait consolée et qu'elle ne pleurait plus. Il la couvait des yeux, certain que personne ne pouvait deviner ce qui se passait en son âme, ce qu'il renfermait dans son cœur d'affection pure et chaste. Il regardait cet ange, qui ne pouvait pas savoir qu'il la contemplait, et que ses yeux lui envoyaient toutes les flammes dont brûlait son cœur, en secret. Et durant cette extatique jouissance, des mots qu'il ne cherchait pas, doux et tendres, bourdonnaient dans sa tête et se pressaient sur ses lèvres. Des mots qui disaient cet éternel poème d'amour que la nature inspire aux plus nobles, aux plus riches, comme aux plus pauvres, aux plus faibles et aux plus humbles. La Frochard avait interrompu brusquement cette douce rêverie. Pierre avait vu sa mère se faufiler entre la dame et Louise. À la pantomime qu'il connaissait si bien, il s'était rendu compte que la mendiante cherchait à exploiter la crédulité de l'inconnu et à s'attirer des aumônes, pour le présent, peut-être même pour l'avenir. Et il passa la main sur son front comme pour chasser la honte que lui inspirait cette ignoble scène d'hypocrisie. Tout à coup, Pierre avait vu la dame s'approcher de Louise, lui parler bas, lui glisser quelque chose dans la main et prendre place dans la chaise dont le valet avait refermé la porte. Alors, il avait songé à rejoindre l'aveugle, à l'accompagner aussi loin et aussi longtemps que possible. Et le pauvre boiteux allongeait le pas afin d'être plus tôt auprès de Louise, lorsqu'une main, se posant lourdement sur son épaule, l'obligea à s'arrêter tout court. Et avant qu'il eût pu se rendre compte de ce qui lui arrivait, la même poigne lui avait fait faire demi-tour. Il se trouva face à face avec Jacques. « Reste là, toi !» dit celui-ci. « Il faut que je te parle. » Le chérubin ne riait plus. Il n'avait plus stéréotypé sur son visage ce sourire ironique qui bouleversait le rémouleur. Lui non plus n'avait rien perdu de la pantomime qui avait eu pour théâtre le portique de l'église Saint-Sulpice. « La mère est à son affaire, » s'était-il dit. Et satisfait de ce côté, il avait reporté ses regards sur l'aveugle. Lui non plus ne pouvait maintenant se défendre d'une douce sensation lorsqu'il voyait Louise. Il se surprenait à l'écouter pendant qu'elle chantait, et cette voix qui disait des souffrances qu'il ne pouvait comprendre avait une mélancolie qui le séduisait sans qu'il pût s'en défendre. Il s'étonnait que depuis 3 mois qu'il avait vécu à côté de cette créature, il ne se fût pas aperçu qu'elle était jolie à ravir et que son visage empruntait à la tristesse et à la souffrance un charme qui l'impressionnait vivement. Il s'en voulait que ce fût Pierre, ce Tavorton, ce grotesque, qui lui eût ouvert les yeux sur les attraits de la pensionnaire de la veuve Frochard. Mais désormais, son attention était excitée. Malheur à qui chercherait à lui disputer le chardonneret. Il était là, vigilant. La Frochard pouvait bien compter maintenant que son gagne-pain ne lui échapperait pas. Il faudrait, pour que cela arrivât, que l'on eût affaire à lui, et il défendrait la proie qui était tombée dans les serres vautour de la veuve. « C'est vrai qu'elle me remue quelque chose là-dedans, quand elle roucoule, » murmurait tout bas Jacques en s'appliquant un coup de poing dans la poitrine. Et il continuait à écouter le cou tendu, le visage animé, les yeux étincelants de luxure, puis répondant à une pensée qui lui venait à l'improviste pour l'irriter. « Ah, tu avais reluqué le chardonneret, toi, petit Vénus, comme si un pareil morceau pouvait jamais te tomber entre les pattes !» Et serrant les poings. « Par exemple, mon bonhomme, je te conseille à l'avenir de renfermer ta mélodie dans ton coffre, et qu'elle n'en sorte plus. Sans cela, je te renfoncerai toi-même à 6 pieds sous terre. » Le brutal garnement avait, en menaçant ainsi dans le vide, cherché où pouvait être le rémouleur. Mais la foule commençait à encombrer la place. les groupes de mendiants stationnés pressaient sur le passage des fidèles, et soudain Jacques avait lui aussi aperçu le mouvement de retraite que faisait la mendiante en traînant Louise. Il avait alors oublié son ressentiment contre Pierre et il s'était mis en marche pour rejoindre les femmes, comme il disait. C'est alors, au moment où il courait après la Frochard, qu'il avait vu le mouvement que se donnait le remouleur pour les suivre. D'un bond, il s'était élancé sur le pauvre boiteux et lui avait brusquement fait faire volte-face. La colère éclatait dans ses yeux. Il était devenu livide, comme lorsqu'il se disposait à sauter sur un adversaire qu'il ne voulait pas ménager. De ses deux mains accrochées aux épaules du rémouleur, il secouait le pauvre garçon avec une violence extrême. Pierre, tremblant, pâle comme le jour où son frère l'avait d'un coup de pied renversé et lui avait cassé la jambe, marmottait par saccades. « Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi me secoues-tu ainsi, Jacques ? Pourquoi ? Que t'ai-je fait ?» Il ne se doutait pas, le malheureux, de quel coup terrible le misérable garnement allait l'atteindre et l'abattre. Il redoutait une violence dont il n'avait que trop éprouvé l'effet pour son chétif corps, et c'était son cœur que l'on visait. C'était ce cœur tout plein de la pensée de Louise que le brutal allait meurtrir. « Ce que tu m'as fait ? Ah, tu veux le savoir ! Eh bien, je vais te l'apprendre !» Et Jacques, comme s'il eût voulu s'exciter encore, tourna vivement les yeux dans la direction où s'en allaient les deux mendiantes. Pierre, troublé, les membres frissonnants, répétait lamentablement. « Jacques, qu'as-tu à me dire ?» Et le malheureux faisait de vains efforts pour se débarrasser des deux mains de fer qui le retenaient immobile et comme rivé au sol. Alors le sinistre bandit eut un mouvement féroce pour repousser l'infortuné boiteux qui alla trébucher à deux pas, et s'avançant vers le pauvre garçon sans défense. « D'abord, je ne veux pas que tu suives Louise !» Pierre releva la tête et son regard lança un éclair. « Ah ! Tu as beau essayer de me poignarder avec tes yeux, l'avorton. Il en sera ainsi. Je te le répète, je te défends de suivre Louise !» Le rémouleur avait pendant quelques secondes perdu l'usage de la parole. À la fin, il fit un effort. Effaré, il regarda son frère avec une poignante expression de souffrance, et il balbutia. « Comment ? Tu... » Jacques lui mit le poing sous le nez en s'écriant « Je te défends de penser à elle !» Pierre s'était relevé et les bras tendus, s'avançant sans trembler vers son frère, il lui dit « Moi ? Ne plus penser à Louise ?» Cette exclamation était partie véhémente, comme un cri déchirant de son âme. Le chétif redressait la tête pour protester contre cette menace, mais il s'arrêta court devant le regard menaçant de son frère. Et d'une voix suppliante, il dit plus bas. « Pourquoi, Jacques, pourquoi ?»« Pour que je ne te casse pas les reins, l'avorton !» Ne se contenant plus de fureur, l'ignoble gredin s'était élancé comme un fauve sur sa malheureuse victime. Et lui appuyant les deux mains sur les épaules, il l'obligea à tomber écrasé sur les genoux. Aveuglé par la colère, il s'acharna à peser de tout son poids sur l'infortuné rémouleur. Et d'une voix menaçante, il lui dit « Je te défends de l'aimer !» Pierre ne poussa pas un cri. Immobile et comme grandi par la lâcheté du misérable qui abusait ainsi de sa force, il prononça ces mots d'une voix qui ne tremblait plus. « Tue-moi si tu veux, Jacques !» Puis, levant les yeux au ciel, il ajouta tout bas « Mais tu ne m'empêcheras pas de l'aimer !» Jacques avait alors abandonné le malheureux, certain que la leçon lui profiterait pour l'avenir. Il se mit à la recherche de sa mère qui avait pris par la rue Saint-Sulpice. On entendait encore, au loin, la voix de Louise qui, forcée d'obéir à la mégère, s'époumonnait à chanter. La Frochard avait dit « La journée sera bonne !» et elle ne voulait rien épargner pour qu'il en fût ainsi. En vain, l'aveugle succombait-elle à la fatigue, au froid, à l'émotion qu'elle avait éprouvée lorsque la comtesse lui avait adressé la parole. En vain suppliait-elle qu'on ne lui infligeât pas ce supplice inutile de chanter dans des rues désertes. « Ça attirera le monde !» répondait l'impitoyable mendiante. « Et puis, je veux que ça soit comme ça !» Et les deux femmes s'enfonçaient ainsi dans les rues par une épouvantable rafale de neige. Pierre était resté à genoux comme l'avait précipité Jacques. La scène de violence n'avait pas eu de témoin. La place était déserte. Le rémouleur appuya une main sur le sol et se releva péniblement. Alors, il chercha des yeux celle qu'on lui avait défendu de suivre, celle à qui on lui avait défendu de penser. Les flocons, tombant serrés, lui dérobaient sa vue. Il poussa un soupir et alla reprendre sa manivelle et ses outils qu'il avait placés contre une des grilles latérales de l'église. Et cet infortuné qui venait d'assister à cette honteuse scène de mendicité poussa son cri de travailleur. « À repasser les couteaux, les ciseaux, à repasser les couteaux. »